Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, au programme de notre magazine cette semaine, de la musique avec Guillaume et le duo Majora. Thomas avec la lecture de Fernando Pessoa.
Pour la chronique de Gaël, c'est l'exposition au bleu du ciel qui se déroule actuellement.
Nous terminerons avec les Gédéons pour prolonger le plaisir. Nous débutons avec Guillaume et ses invités, le duo Majora. Bonjour et merci d'être tous les trois sur notre plateau cette semaine.
Bonjour Majora, alors vous n'êtes plus un duo puisque sur scène, vous êtes plus nombreux que ça maintenant désormais, je crois, il me semble.
Ouais, tout à fait. On est en train de monter une équipe depuis décembre. À la base, on vient d'une formule qui était beaucoup plus électronique pour les, un petit peu les besoins de la scène. C'était plus facile d'être trois, donc une formule avec boîte à rythme, séquence, ce genre de choses, donc très, très électro. Et on avait cette envie avec Maeva de travailler sur une formule beaucoup plus organique, donc avec une batterie, des percussions, un bassiste et tous les synthétiseurs, toutes les parties électroniques sont jouées à la main. Y a
et donc vous avez de l'actualité puisque vous sortez un EP bientôt. Quelle est la date fatidique?
Tout à fait, c'est dans presque deux semaines. Ça sort le 2 mai. Ouais. C'est un EP qui s'appelle Nighttime Exit, sorti de Nuit d'urgence, et qui a cinq titres, principalement en anglais, mais un titre en français.
Un titre en français, oui, c'est vrai, tout à fait, qui est très chouette. Mais donc, cet EP donc, sort bientôt. Et puis là, est sorti un single, on va dire ça, puisque c'est de l'anglais aussi. Mm-hmm. Et donc, ce single a pas vraiment une vidéo, mais disons un petit quelque chose lors de la vidéo, mais qui est très chouette aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson qui est quand même très, très urbaine, moi, je trouve.
Voilà. C'est ce qu'on recherchait. Donc c'est le single s'appelle Lover's Future. On a travaillé avec un animateur américain qui s'appelle Josh Hefner, qu'on a trouvé sur les réseaux. On l'a contacté et puis il a aussi un coup de cœur pour la musique. Donc ça nous a vraiment fait plaisir. Et ce qui était assez rigolo d'ailleurs pour Lover's Future, c'est qu'on lui a expliqué très brièvement les paroles, ce qu'on cherchait, mais il a eu cette vision un peu d'un paysage urbain. Et c'est ce qu'on avait vraiment en tête alors qu'on n'avait pas du tout communiqué dessus. Donc c'était une belle surprise quand on a vu ce premier jet et on trouve qu'il a fait un travail vraiment... Bah
surtout vos photos de presse, c'est souvent à la part Dieu avec des immeubles. Donc ça colle parfaitement en fait. Alors je ne sais pas si c'est volontaire mais...
C'est vrai que c'est la part Dieu. On s'était dit qu'il faudrait qu'on évite que les gens sachent que c'était à Lyon. Mais forcément les Lyonnais, Lyonnaises reconnaîtront les différentes tours.
Et donc, il y a un petit peu un esprit, pas SF, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce que vous lisez de la SF? Est-ce que ça vous intéresse, ces univers un peu différents, parallèles?
Ouais, énormément. Alors, c'est de la SF dans le sens large du terme. On peut quand même parler de fantasy de manière générale. On est hyper influencé par la pop culture japonaise, donc des animés et des grands noms de l'animation comme Hayao Miyazaki, qui est un animateur qu'on admire beaucoup, qui nous a beaucoup inspiré en fait dans l'esthétique de nos morceaux. On est aussi beaucoup inspiré par le cinéma, les jeux vidéo. Et cet aspect SF, effectivement, nous ce qui nous plaît, c'est le côté science-fiction poétique. C'est-à-dire en fait prendre des distorsions de la réalité, prendre ce genre de trucs qu'on retrouve dans la SF pour trouver un petit peu des explications et des portes de sortie au quotidien.
Oui, tu parlais de Miyazaki, c'est vrai qu'il y a un côté très poétique chez Miyazaki.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a une chanson qui fait, alors explicitement j'en sais rien, mais un petit peu le château ambulant, c'est un petit peu dans cette veine-là.
Tout à fait, voilà, ouais. Château dans le ciel aussi.
Ouais, le château dans le ciel.
Mais effectivement, ouais, c'est souvent en fait appliqué à des choses du quotidien, des choses très terre-à-terre. Château dans le ciel, par exemple, ou château ambulant, c'est juste à la base des maisons et des enchevêtrements de murs et de trucs en béton qui en fait vont s'animer, se mettre à bouger et voilà, cette déformation du réel, nous ça nous plaît beaucoup.
Alors pour revenir sur l'esthétique, moi ça m'a beaucoup plu dans la proposition de l'attaché de presse, pop mélanco-solaire.
Mélanco-solaire.
Alors je sais pas qui a inventé ce truc là, mais en même temps ça m'a tellement interpellé que je me dis mais si, c'est pas si bête que ça, même si en France on veut mettre les gens dans des cases et faut en sortir, mais je trouve que c'est plutôt bien vu.
C'est un néologisme qui nous est venu pour justement décrire notre musique. C'était un peu la ligne directrice de la musique de Majora dès le départ. On s'est rendu compte qu'avec Mae, on avait souvent Au départ, ce qu'on pensait être une dualité entre un côté très solaire, très, très joyeux, très positif, et un côté beaucoup plus sombre et mélancolique. Ça pouvait être une dualité entre paroles-musique, enfin texte-musique ou inversement. On s'est rendu compte en fait que c'était pas une dualité, mais c'était deux choses qui vivaient ensemble. Un peu comme chez nous, chez les humains. Les deux ne se confrontent pas, mais souvent cohabitent ensemble. Et voilà, dans notre musique, il y a un aspect qui des fois peut être assez sombre, assez mélancolique, un aspect plus lumineux. Des fois, on appelle ça du disco triste, nous. C'est une musique qui est très groovy, qui bouge beaucoup, mais derrière des thématiques qui sont un petit peu plus dures. Parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais dans nos paroles, on parle donc... Ça peut parler de rupture amoureuse, ça peut parler du deuil, de l'éloignement, de la distance.
Et en termes de référence, en tout cas, moi je sais pas, moi je suis un peu plus âgé que vous tous. Mais voilà, moi il y a un petit côté Everything But The Girl, je trouve, en fait, dans ce que vous faites. Puis même un petit peu Métronomie aussi. Moi je trouve qu'au contraire, c'est très lumineux. C'est très, quand on écoute ça, on ressort de là, on est ragaillardi, quoi. Donc moi ça me fait beaucoup de bien, en fait, votre musique.
On a eu une influence pop très anglo-saxonne, effectivement. De plusieurs courants, d'ailleurs, ça peut aller du post-punk à la new wave, à la pop encore plus classique. Hein. On est des gros fans des Beatles aussi. C'est chouette à entendre, effectivement, ce côté. Sortir un petit peu ragaillardi de ça.
On va peut-être écouter Lover Future, et puis on en reparle un petit peu après.
Thank you.
qu'on vient d'entendre Majora avec Lover Future, extrait de leur premier EP, qui sort donc le...
Le 2 mai.
Le 2 mai, donc tout va bien. Sur un label ?
Alors, pour le moment, non.
Ben voilà, on il faut faire une demande.
On est encore indépendant et indépendante, mais peut-être un jour, on ne sait pas.
Alors, ce titre, moi j'aime bien cette phrase, « We've fallen in love in another life ». Ça, c'est chouette, c'est un petit peu les deux mondes. Voilà. On peut être maintenant, avec tout ce qui est univers parallèle, on peut peut-être tomber amoureux avec des gens qu'on ne connaît peut-être pas encore.
Carrément, c'est vraiment cette histoire d'univers parallèle, de solutions qu'on peut trouver ailleurs, mais même dans un côté assez science-fiction, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de la pop culture japonaise. Quelque chose qu'on trouve beaucoup dedans, c'est ces choses un peu surnaturelles qui arrivent, mais on n'a pas besoin de les expliquer en fait. C'est juste là, on fait avec. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et c'est pour ça qu'on essaie de naviguer un peu dans ces thèmes-là, dans nos paroles.
Alors la sortie de l'EP s'accompagne d'un concert, je crois, il me semble. Donc je crois que c'est le jeudi 2 mai. Et donc ça va être au Marché Gare.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Avec Écran Total et... Scrofirap, je ne connais pas Scrofirap.
Scrofi, bon, exactement, ouais. C'est dans le cadre du labo du conservatoire. C'est un rappeur qui vient d'Annecy.
Et puis vous avez une belle date aussi, je crois, fin août, qui s'est bookée il n'y a pas très longtemps.
Complètement, on va jouer au festival Woodstower le 31 août.
Donc une très belle scène.
Complètement.
Eh bien on vous retrouve au Marché Gare d'abord, donc le 2 mai, pour la sortie de l'EP.
Merci beaucoup.
Au revoir Majora.
Alors, l'exposition Sous les balcons fleuris de Guillaume Chat-Amian a lieu au Bleu du Ciel. En mars 2024, la série a entamé sa 13e année de guerre civile, 13 ans d'un flot et d'une surenchère d'images médiatiques. Le travail de Guillaume Chat-Amian révèle la guerre civile syrienne en partant de la figure tyrannique de Bachar el-Assad, devenu président de la Syrie en 2000 à la mort de son père, Hafez el-Assad. En visitant cette exposition, j'ai tout de suite pensé à la phrase de Georges Braque « La vérité existe, on n'invente que le mensonge ». L'invention du mensonge, voilà la traque de Guillaume Chat-Amian, photographe plasticien né en 1975 et basé à Marseille. Dans sa démarche, le document s'infiltre dans l'art contemporain. Documents tels que photographies, archives, dossiers, rapports vidéo, magazines, ouvrages d'histoire, objets, mais aussi outils numériques, internet, smartphone, clé USB, antenne satellitaire, dark web, réseaux sociaux, ainsi que le dossier Syria Fields. Révélé en juillet 2012 par Wikileaks, ce dossier comprend de nombreux échanges d'emails de politiciens syriens, mais aussi du couple présidentiel, emails présentés dans l'exposition. Guillaume Chat-Amian souligne « Je hack documents et images pour tisser une constellation entre le régime syrien et les citoyens ». En plus d'être photographe plasticien, il est un enquêteur menant pour son projet un travail d'investigation, de collecte et d'agencement d'images déjà existantes depuis 9 ans. L'exposition comporte 3 volets, la famille al-Assad, les Syriens opposants au régime ou pro-Assad et le rapport César. César est le prénom donné à ce photographe du régime qui est parvenu à exfiltrer de Syrie 53 275 photographies portant sur des détenus torturés et décédés entre mai 2011 et août 2013 dans plusieurs centres de détention du régime syrien. Le rapport César a été dévoilé en 2015. En confrontation d'images véridiques, au sens souligné par Georges Braque, la vérité existe, Guillaume Chat-Amian donne à voir l'invention du mensonge, la falsification. S'étonnant de la respectabilité médiatique dont bénéficie Bachar el-Assad dans les médias occidentaux, l'exposition présente des reportages sur la famille al-Assad, dont des pages de Paris Match qui, pour un dîner aux chandelles d'Asma et Bachar en 2010 au restaurant parisien La Coupole, titrait l'article « Deux amoureux à Paris ». Ainsi, dans son texte intitulé « Le cas Bachar » par Guillaume Chat-Amian, Paul Ardenne questionne « Gagne-t-on aujourd'hui une guerre avec des armes seulement ou au moyen d'images de propagande ?» Guillaume Chamaillan recherche, enquête, décrypte, analyse, réagit et agit. Métissant différents médiums, sa démarche conceptuelle et dénonciatrice s'articule avec des documents contemporains. L'esthétique non conventionnelle qu'il crée façonne une politique non conventionnelle, pour reprendre les mots du philosophe Boris Groysse. Le parcours de l'exposition s'ouvre sur une photo du rapport César. Le lieu est identifié grâce à deux captures d'écran Google Earth juxtaposées sur la photo. Cette présentation montre combien le palais présidentiel à Damas est proche de l'hôpital 601, l'un des plus importants centres de torture et d'extermination du régime syrien. Certains songeront à la zone d'intérêt, film récent de Jonathan Glazer, dans lequel le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa famille vivent à côté du camp. Guillaume Chamaillan s'empare aussi de photos de la famille Al-Assad qu'il nous donne à percevoir sous un angle nouveau. Constitué de pièces de puzzle, mais avec une pièce manquante en lieu et place du visage de Bachar qui joue ou pose avec ses enfants, ce travail plastique vise à corriger, à compenser une manœuvre frauduleuse de représentation du bon père de famille. En filigrane, Guillaume Chamaillan pose la question de la transmission, de la filiation. Le fils aîné de Bachar el-Assad sera-t-il comme son père ou son grand-père dont il porte le prénom ? Bachar el-Assad s'expose aussi à même le sol du bleu du ciel. Une sculpture en béton armé de son buste ainsi positionné fait songer aux sculptures déboulonnées. Non loin et toujours à même le sol figure une photo de Rehab Alaoui, étudiante syrienne née à Homs en 1989. Arrêtée, elle est morte à Damas en 2013 dans les geôles syriennes. Cette photo de son cadavre prise par César a fait le tour du monde. Enfin, des images prises par les citizen journalistes, des pigistes syriens formés en 2013 par l'AFP lorsque les journalistes occidentaux ont dû quitter la Syrie, sont présentées dans une vitrine. Ces images révèlent le processus du logiciel d'authentification avec le filtre de l'analyse du bruit de chrominance qui permet de détecter si la photographie a été retouchée numériquement. Exposition poignante, programmée au Bleu du Ciel jusqu'au 25 mai. À noter ce même 25 mai, une visite guidée de l'exposition à 17h, ainsi qu'une discussion entre Guillaume Chamaillan et l'association Photographie et Images Contemporaines 9PH lors d'un café photographique à 18h. Plus d'informations sur lebleuduciel.net.
Thomas, cette semaine, tu nous entraînes du côté du Portugal avec Fernando Pessoa. Il est né en 1888 et mort en 1935. C'est un immense poète. Quand on va d'ailleurs dans sa ville natale, tout respire Pessoa. Tu vas nous lire deux textes issus du recueil Le gardeur de troupeaux. On en parle juste après.
Peut-être bien trois d'ailleurs, hein, si vous êtes sage. Plutôt le vol de l'oiseau qui passe sans laisser de traces que le passage de l'animal dont l'empreinte reste sur le sol. L'oiseau passe et oublie, et c'est ainsi qu'il doit en être. L'animal, là où il a cessé d'être et qui, partant, ne sert à rien, montre qu'il y fut naguère, ce qui ne sert à rien non plus. Le souvenir est une trahison envers la nature, parce que la nature d'hier n'est pas la nature. Ce qui fut n'est rien, et ce souvenir, c'est ne pas voir. Passe, oiseau, passe, et apprends-moi à passer. Je m'éveille la nuit subitement, et ma montre occupe la nuit tout entière. Je ne sens pas la nature au dehors. Ma chambre est une chose obscure, aux murs vaguement blancs. Au dehors règne une paix comme si rien n'existait. Seule la montre poursuit son petit bruit, et cette petite chose à engrenage qui se trouve sur ma table étouffe toute l'existence de la terre et du ciel. Je me perds quasiment à penser ce que cela signifie. Mais je m'arrête net, et dans la nuit, je me sens sourire du coin des lèvres, parce que la seule chose que ma montre symbolise ou signifie, en emplissant de sa petitesse la nuit énorme, est la curieuse sensation d'emplir la nuit énorme avec sa petitesse.
Troisième ou pas ?
Ouais ? Oui. Une rangée d'arbres là-bas au loin, là-bas vers le coteau. Mais qu'est-ce qu'une rangée d'arbres ? Des arbres et voilà tout. Rangée et le pluriel arbres ne sont pas des choses, ce sont des noms. Tristes âmes humaines qui mettent partout de l'ordre, qui tracent des lignes d'une chose à l'autre, qui mettent des pancartes et des noms, avec des noms, sur des arbres absolument réels et qui tracent des parallèles de latitude et de longitude. Sur la terre même, la terre innocente est plus verte que tout ça.
Fernando Pessoa, c'est un peu une énigme, parce que Fernando Pessoa, il utilise aussi plein d'autres noms. Et d'ailleurs, sur la couverture de ton recueil, il est question du titre, bien sûr, alors en grand, hein, Fernando Pessoa, le gardeur de troupeaux, et puis les autres poèmes d'Alberto Cairo, on se dit mais qui est-il ? Et puis la poésie d'Alvaro de Campos. Il y a donc d'autres auteurs, peut-être ?
Oui, alors il était spécialiste de ça, mais même dès sa prime jeunesse, hein, quand il était ado. En fait, il crée ce qui s'appelle des hétéronymes, ce qui n'est pas tout à fait un pseudo. Enfin, c'est une variante d'un pseudo, un hétéronyme. C'est un personnage qu'on fait écrire, en fait, tout simplement, ce qui distancie encore plus le nom de l'auteur de base, donc Fernando Pessoa, et ce qu'il écrit, puisqu'il le fait passer, du coup, par le filtre d'un personnage inventé. Ici, c'est une sorte de berger imaginaire, un berger des idées, qui est supposé avoir peu d'éducation, donc qui parle d'une façon un peu rustre. Enfin, on peut trouver que c'est quand même un peu élaboré. En tout cas, c'est un sacré dispositif pour réinventer son style, réinventer son propos, réinventer une vision du monde, tout en gardant tout de même, évidemment, le sien et la sienne. Voilà. Donc, c'est assez fascinant. Hein. Y a d'autres auteurs, mais lui, il était assez spécialiste de la chose.
Effectivement, on sent bien, en fait, en créant finalement ces personnages, qu'il disparaît plus ou moins, en fait, derrière. On sait que c'était quelqu'un de tout à fait, enfin, qui revendiquait cette banalité, cette simplicité, etc. Il fréquentait les cafés, il a écrit, mais des quantités astronomiques, en fait, hein, de poèmes, tout en étant, en fait, extrêmement discret. C'est quelqu'un de fascinant, finalement.
Oui, oui, tout à fait. La fertilité des personnages créés pour écrire montre effectivement des facettes nombreuses, oui, tout à fait.
À redécouvrir. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir lu pour nous. Nous terminons avec nos Gédéon cette semaine, nos coups de cœur, évidemment, nos incontournables Gédéon. Alors Guillaume, avec quoi es-tu venu cette semaine ?
Eh bien un disque, il s'appelle Découdre, et il en découd pas mal, et le groupe s'appelle Pelouse. Alors évidemment, Pelouse, c'est un petit peu étrange comme nom de groupe, mais c'est un trio grenoblois, qui a déjà sorti un album, et on connaît assez bien ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le chanteur de Pelouse, puisqu'il s'agit de Xavier Machaud, qui a quand même une petite notoriété dans la région. Donc Pelouse, avec Découdre, eh bien, c'est un album assez formidable, en français, avec des textes assez décapants. Et comme tu peux le voir, toi, à côté de moi, chaque titre est un seul mot, d'accord ? Ouais, un seul mot, ouais. Chemin, loup, forêt, larmes, saut, mur, somme, ours, parfois fête. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et sur scène, c'est vraiment génial, parce que c'est une espèce de power trio. Mais ça serait entre... Et d'ailleurs, ils font une reprise de Brigitte Fontaine sur scène. Mm-hmm. Donc, c'est entre Brigitte Fontaine et peut-être le groupe Morphine, qui n'existe plus, mm-hmm. où il y avait un bassiste étonnant. Et là, il y a un bassiste vraiment étonnant. On va écouter un titre que j'aime beaucoup, parce que je m'identifie beaucoup, en fait, à ce titre. Il s'appelle « Ours ».
Un jour, on ne me reconnaîtra plus. Je ne me ressemblerai plus. Je ne serai plus un humain. Je ne suis pas beau en humain. Un jour, on ne me reconnaîtra plus. Je serai enfin devenu. J'aime trop de travers en humain. Je ne sais pas danser en humain. Un jour, on ne me reconnaîtra plus. Mon nom, on ne prononcera plus. Partout, j'aurai des poils partout. Je serai doux, je serai très doux. Je serai devenu un ours. Un ours brun des plaines du Nord. Un ours brun pelage dehors. Je serai devenu un ours. Un jour, on ne me reconnaîtra plus. celui au rêve perdu, celui qui ne savait pas dire, celui qui ne faisait que réduire. Un jour, on ne me reconnaîtra plus, je serai la peine disparue, et je danserai malhabile, le cœur léger, enfin tranquille. Ce jour où on ne me reconnaîtra plus, je serai la joie revenue, vous pourrez venir contre moi, tout oublier, tout contre moi. Je serai devenu un ours brun des plaines du Nord, un ours brun pelage dehors. Je serai devenu un ours, je serai devenu un ours, un fauve enfin loin des rebords, tourment brûlé, trompe la mort. Je serai devenu un ours. Je serai votre ombre. Je serai là pour vous rappeler qu'enfant vous me dessiniez. Avec votre envie folle de vie. Avec tous les possibles à l'horizon. Je serai là pour vous dire que tout est là encore. Tous les possibles. Tout l'horizon, je serai devenu un ours. Je vais devenir un ours. Je deviens un ours. Je suis devenu 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 un ours.
Donc c'était Ours du groupe Pelouse, extrait de leur album Découdre qui vient de sortir. Le label, il y en a plein. Grippin, oui, principalement. Oui, je crois que c'est le label de Xavier Machaud en plus. Donc voilà. Donc il faut vraiment aller écouter Pelouse sur scène. Alors ils sont déjà passés à Lyon, mais on va les retrouver peut-être pour une belle date à Paris au Hasard Ludique le 16 mai. Donc on fait aussi de la pub pour les salles parisiennes
parce que
ce groupe est de notre région et il faut aller les écouter. Voilà, Pelouse.
Merci beaucoup, Guillaume.
Mon Gédéon de la semaine est né en 1984 et a présenté plus de 300 expositions. Il y a 40 ans, la ville de Lyon créait une section d'art contemporain dans une aile du Palais Saint-Pierre qui abrite également le Musée des Beaux-Arts. En 2024, le MAC Lyon, Musée d'art contemporain de Lyon, fête ses 40 ans. L'anniversaire s'organise sur 3 jours, les 17, 18 et 19 mai. Au programme, visites, rencontres, conférences, ateliers, performances, danses, concerts et 2 nocturnes. Vendredi 17 avec Radio Nova qui installe son studio au musée et samedi 18 avec DJ Set. Pour son anniversaire, c'est le MAC Lyon qui vous fait des cadeaux. Entrée libre et gratuite pour tous pendant les 3 jours et organisation d'un grand jeu concours afin de gagner un week-end à la Triennale de Bruges. Plus d'informations sur mac-lyon.com.
Cette semaine, pour moi, ce sera BD, un album ressorti le 3 avril dernier sur la plasticienne Niki de Saint-Phal. Tout le monde ou presque connaît ses nanas, sculptures tout en rondeur et couleur. L'album se nomme Niki de Saint-Phal, le jardin des secrets. Une BD de Sandrine Martin et Dominique Ozuc. Paru chez Casterman. Née en 1930 d'une mère américaine et d'un père français, Marie-Agnès Phal de Saint-Phal, dite Niki, a sans doute été la sculptrice la plus importante du XXe siècle. Ses œuvres les plus connues, les fameuses nanas que j'évoquais tout à l'heure, figurent des femmes plantureuses, colorées et espiègles à l'image de leur créatrice. Car Niki ne se souciait pas du tout de ce qu'on attendait d'elle à l'époque. Publiée une première fois en 2014, cette biographie dessinée revient sur la trajectoire d'une artiste qui a mis la liberté au centre de sa vie. Amie d'Yves Klein, de César, épouse bien sûr de Jean Tinguely, Nikki reste avant tout une femme affranchie, une artiste en recherche permanente pour attirer le public à la fantaisie de ses créations. Je ne peux que vous conseiller cette belle bande dessinée dont j'ai vu passer l'actualité bien récente puisqu'elle ressort. Ça veut dire qu'elle avait eu un certain succès et ça, c'est pas banal dans les bandes dessinées. Nikki de Saint-Phalle, j'ai l'impression qu'elle incarne justement ces femmes affranchies, ces femmes libres qui sont si importantes aujourd'hui dans notre société parce qu'elle n'avait pas de discours féministe en soi, elle n'a jamais revendiqué ça. Néanmoins, sa pratique plastique imposait cette liberté de la femme et aussi de ce corps qu'on pourrait dire ample avec le body positive. En ce moment, on peut dire qu'elle est d'actualité. Voilà, Nikki de Saint-Phalle, Le Jardin des Secrets, une BD de Sandrine Martin et Dominique Ozuc de chez Casterman, paru chez Casterman. En attendant de vous retrouver dans de prochaines aventures, bonne semaine à toutes et à tous.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.